Alors la zone Sadisquat, c'est une émission sur le mal logement et les luttes qui sont liées à tout ça. Bonjour à toutes et tous, on est en direct sur Radio Galère 88.4 pour une émission spéciale d'Alors la zone, en direct de la place Cadena pour l'événement Place aux Solidarités. On est ensemble jusqu'à midi. Je suis Coco et comme en habitude, je suis avec Tom Tom, mon partenaire de radio. Salut. Et puis à la technique, on a Sidi et Jules, merci à eux.
À toutes et à tous, on est encore en phase de calage sur la technique. Lors de la dernière émission d'Alors la Zone Sadisquat, le mois dernier, on était revenu sur l'émission de l'an passé de la Place aux Solidarités. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur le site de Radio Galère en podcast et sur notre nouvelle chaîne Instagram. On essaye de se mettre à la page. Alors la Zone Sadisquat, tout est attaché. L'émission d'aujourd'hui, on l'a travaillée depuis plusieurs semaines en rencontrant plusieurs personnes de différents collectifs et associations, Inès, Douja, Rachida, Wafa, Kira, Nasera, Hélène, Amadou, Mélina, du collectif On le fait pour nous, du CHO3, des compagnons bâtisseurs, d'un centre-ville pour tous. Et donc avec elle, on a travaillé cette émission d'aujourd'hui qui se concentre vraiment sur la question de l'habitat dans le 3e arrondissement de Marseille.
Et donc avec nous sur le plateau, on a Kira et puis on a Christophe. Je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour tout le monde, je suis Kira, habitante du quartier Belle de Mai. Ben, je fais partie du collectif On le fait pour nous et collectif Faire Villa. Ben, collectif On le fait pour nous, c'est que je suis très active sur le collectif. On le fait avec d'autres habitantes du quartier. On facilite l'accès aux droits. Ben, je dis facilite aux droits parce que je me suis mélangée avec les institutions. Mais en langage habitantes, on fait les relations entre les structures du quartier, les associations, tout ce qui existe dans le 3e arrondissement majorité et les habitants qui sont en isolement, de l'information qui passe à côté et l'orienter et en plus peut-être on trouve des solutions en menant des ateliers, en fréquentant avec des juristes, des savoir-faire des habitants.
Merci. Et toi Christophe, du coup ? Ouais. Petit problème micro, on règle ça de suite, c'est les aléas du direct. Bon, Christophe, tu peux aussi.
Bonjour, oui, bonjour c'est à tout bon le monde. Donc Christophe, moi je suis directeur du centre social Saint-Mauron-la-Villette, anciennement directeur du centre social Belle de Mai, deux centres sociaux qui sont gérés par la fédération Léo Lagrange Animation.
Super, merci. Et du coup, Kira, pour nos auditeurs, les personnes qui ne sont pas là et qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais décrire un peu ce qui se passe ici, ce que tu vois ?
La placette, on est d'abord sur la placette à côté de l'école Bernard Cadena pour viser les parents, principalement pour les parents qui fréquentent l'école et aussi juste à côté du marché. Qui stage chaque vendredi, mercredi et samedi, lundi aussi. Et nous, il y a un groupe d'habitants, des associations, des tables placées par thématique de droit, de logement, alimentation et juridique. C'est ça. Et après, il y a plusieurs structures du quartier qui sont là, qui sont bien connues, comme la fraternité, CCAS qui contient CCAS, c'est les assistants sociaux qui font des démarches administratives, juridiques, plein de choses. Il y a le centre social Belle de Mai, c'est aussi plein de démarches de droit numérique, juridique et aussi loisirs. Il y a aussi l'autre alimentation. Je me souviens plus. L'essentiel.
Action contre la faim, notamment.
Oui, voilà, action, oui, contre la faim. Mais on a insisté comme habitante et comme collectif aux réunions de coordination, de préparation à cette placette. On a donné notre avis et on a aussi la vision globale d'habitants, comment ils voient les choses et comment on puisse améliorer la placette encore mieux que l'année dernière. On a participé aussi. Et on voit aussi des habitantes et des militantes associatives, des qui travaillent à la radio, à côté, des caméramans, et un mélange de tout.
Merci beaucoup. Et du coup, toi, Christophe, tu étais là depuis le début. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu l'historique de cette initiative ?
Oui, complètement. Alors, en fait, Place aux Solidarités, c'est une manifestation qui est portée par le collectif d'accès aux droits du 3e arrondissement. Le collectif d'accès aux droits, en fait, c'est une instance qui est née du centre social Belle de Mai. Le centre social, on réunissait régulièrement nos partenaires associatifs pour travailler autour de thématiques. Et en fait, cette instance, elle était un peu très souvent parasitée par ce problème d'accès aux droits. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait isoler cette thématique et faire un groupe de travail spécifique qu'on appelait à l'époque le collectif d'accès aux droits de la Belle de Mai. Donc, on a coporté avec la fraternité Belle de Mai, avec Pierre-Olivier à l'époque, et on a beaucoup travaillé sur ce collectif, vraiment pour répondre aux problématiques d'accès aux droits, essentiellement pour les habitants de la Belle de Mai. Et progressivement, ce collectif d'accès aux droits, il a grandi, puisque les problématiques d'accès aux droits, elles sont globales, elles sont un peu partout. Donc, ce collectif, il s'est agrandi au 3e arrondissement. C'est comme ça qu'on est devenu le collectif d'accès aux droits du 3e arrondissement, avec des structures essentiellement de la Belle de Mai, puisqu'il est né sur la Belle de Mai, et progressivement des structures de Saint-Moron, Félix Piat, qui ont intégré, quelques structures aussi de la Villette, autour de la place de Strasbourg. Et ce collectif d'accès aux droits, en fait, il a réellement grandi depuis 2019, donc ça fait 6 ans qu'il existe, où aujourd'hui on est près d'une trentaine d'associations diverses qui interviennent sur différents champs, qui se réunissent régulièrement pour travailler autour de l'accès aux droits des habitants. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire le lien avec les institutions. Parce que ce collectif l'accès aux droits, c'est quand même le champ de compétence des collectivités territoriales, de l'institution, de l'État, du département, de la ville de Marseille. Donc l'idée des associations, c'était pouvoir faciliter le lien entre les habitants et les institutions. Donc progressivement est rentré dans le collectif d'accès aux droits la ville de Marseille, la mairie de secteur du 2e, 3e arrondissement et depuis 2 ans je crois le CCAS aussi avec notamment le dispositif territoire zéro non recours. Donc du coup c'est comme ça que ce collectif a réellement grandi. Aujourd'hui on a un comité de pilotage de 6 structures qui coportent ce collectif d'accès aux droits et après on a une trentaine d'associations qui interviennent régulièrement pour pouvoir travailler, réfléchir, militer, être engagé autour de l'accès aux droits des habitants.
Super, merci Tom.
Et c'est vrai qu'on voit que du coup il y a un espèce de lien entre institutions, associations, habitants du quartier. Comme on en a déjà un peu parlé à la dernière émission, mais il y a un peu ce concept de l'aller vers qui a l'air d'être un peu central, de naviguer entre ces différentes personnes et groupes. Kira, tu peux expliquer un peu aux auditeurs, auditrices, c'est quoi l'aller vers ou qu'est-ce que ça apporte là dans cette dynamique ?
Oui, début de la création de notre collectif, c'est qu'on a réalisé que même nous, les habitants, les créateurs, qu'on passe à côté de l'info, de plein de choses à côté des structures qu'ils font, plein de choses pour nous, les habitants, mais on n'est pas informé ou on n'a pas osé d'aller chercher l'info et aller chercher le programme. Et à travers qu'on a fait des bénévolats et fréquenté les structures, les associations, j'ai trouvé que même moi, même les bénévoles, on a trouvé qu'on a plein de choses. Il y a plein de bénéfices, il y a plein de trucs qui se passent pour nous, les habitants, mais il n'y a que 2, 3 ou plus de dizaines de personnes qui profitent, mais on dit que ce n'est pas possible. Il y a plein de gens qui sont en isolement, qui sont là, demander qu'est-ce qu'on va faire, ils s'ennuient, et sur les bancs, sur aller vers l'école et revenir, les mamans. Et aussi, je faisais le porte-à-porte, et les gens ne savaient même pas leurs droits. Les porteurs de parole, on a décidé non. Il faut qu'on réagisse là, il faut faire un truc, qu'on allait chercher les habitants, faire bouger. Et aussi, à travers tout ça, d'aller vers les habitants, l'expliquer à notre manière, notre langage, notre façon de faire. Peut-être en expliquant l'importance d'aller chercher l'information, d'aller demander, et aussi de ramener l'information, d'expliquer des fois. Et de définir nos vrais besoins du quartier parce qu'on est plusieurs communautés, plusieurs âges et chacun ses besoins, chacun sa demande, chacun a sa façon de voir les choses. Et tout ça, ça a ramené qu'on a besoin des trucs à dire, à le faire dans le quartier, rajouter peut-être des postes, rajouter des financements, rajouter aussi des créneaux de juristes, par exemple, de le PAD, par exemple. Et il y a des rendez-vous dans 20 jours. Mais aller vers, juste pas sur la place, ça ne reste pas sur la place. Je fais aussi, on fait, pas tout, parce qu'il n'y a pas que moi, on fait aller vers aussi par téléphone. Ils nous contactent, et nous aussi on contacte les institutions, parce que maintenant on est repérés, on repère les structures, les bénévoles, les associations, on les demande directement et on file leur numéro et leur adresse aux habitants.
Ouais, du coup, c'est vraiment aller vers là dans la rue. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que vous faites un travail tout au long de l'année, aller vers chez les gens. Tu parlais de porte à porte. Il y a quand même un gros travail qui est fait justement d'aller jusqu'à chez les gens pour leur faire connaître leurs droits, faire du lien avec les différentes associations et aussi institutions qui font tout l'accès aux droits des populations dans le 3e arrondissement. Est-ce que Christophe, toi, tu avais quelque chose à ajouter sur cette question de l'aller vers ?
Non, mais c'est oui, effectivement, c'est tout à fait le sens justement de Place aux Solidarités. Place aux Solidarités, c'est ça. On a fait le constat donc à l'époque avec la fraternité Belle de Mai qu'il était important de rendre visible l'action qui était faite par les structures. Donc on a commencé petit, hein, on a emmené un thermos de café, on a été sur la place Cafo et les gens sont venus, on les a renseignés, puis progressivement il y a eu 3-4 associations qui sont venues. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on le fait sur la place Cadenas, sur le parvis de l'école, parce que c'est important de toucher les parents d'élèves sur les écoles, c'est important de toucher les gens qui sont sur le marché. Et c'est toute la force du collectif d'accès aux droits, c'est-à-dire un mélange entre les institutions, les associations, effectivement les collectifs d'habitants, comme le collectif On le fait pour nous, qui a cette force de relation avec les habitants et de relayer l'information, qui a une communication beaucoup plus claire que les institutions. Ils arrivent facilement à parler aux habitants avec leurs mots, à traduire aussi, puisqu'on a beaucoup d'habitants qui peinent à comprendre le français. C'est tout le sens de l'accès au droit. Et voilà, on a vraiment des traductrices, des traducteurs, et c'est la force de ce collectif d'accès au droit et d'être accessible vraiment à la population. Vraiment, juste pour finir, c'est de remercier l'ensemble des associations qui sont présentes aujourd'hui, qui sont sur le collectif d'accès au droit, les collectifs d'habitantes et d'habitants, hein, qui font ça sur leur temps libre. Ça, c'est important aussi, c'est un engagement. Et je pense que le message fort aussi, c'est un appel aux institutions de dire l'accès au droit, c'est votre responsabilité. Nous, on est là pour faciliter. On est là effectivement pour l'aller vers les associations, les collectifs, pour faciliter cet accès au droit. Mais après, l'accès au droit, c'est la responsabilité de l'institution. Et c'est important vraiment de le rappeler. Donc on les appelle, hein, on appelle. Aujourd'hui, on a le CCAS qui est là ce matin, mais on a assez peu d'institutions. Donc nous, l'appel aujourd'hui, c'est un appel aux institutions de venir faire de l'accès au droit, et nous, on sera là pour les aider. Mais vraiment, merci à toutes les personnes qui s'investissent sur cette manifestation et qui s'investissent tout au long de l'année.
Merci à vous pour l'initiative.
Merci beaucoup, et on va faire une petite pause musicale. On va enchaîner avec le premier plateau. Merci pour l'introduction.
صغير محير مغير مزير وسط الزحمة شفت امو شفت البو شفت الود مغامر بصغره شفت بطور غادي ويمين فهمت باللي كاين مشكل فهمت باللي لبحر فقع نجي عن باغي ياكل انسان شفت المول وانا يا خايف وحزين شفت المول
فهمت بلي كاين مشكل شفت البول ولا يا خايف وحزين شف بابور غادي ويمين فهمت بلي كاين مشكل شفت النهار وشفت الليل وانا يا خايف وحزين بابور غادي ويمين فهمت بلي كاين مشكل شفت النهار وشفت الليل وانا يا خايف وحزين
sur le plateau, donc sur Radio de Galère en direct et puis sur l'émission Alors la zone ça disquatte. La musique qu'on vient d'entendre, c'était la musique de Bakir, qui est un groupe d'ici, du 3e arrondissement. Et on les remercie pour la musique. Cette émission, elle a été séparée en deux pour parler des luttes pour le logement. Du coup, ce qu'on appellera l'intérieur de l'habitat, et ça va être notre premier plateau ici. On va se concentrer sur l'intérieur et puis ensuite sur le quartier de la Belle de Mai, l'extérieur par la suite. Donc cette première partie, elle sera co-animée par Amadou, qui est ici à ma gauche, des compagnons bâtisseurs, et par Rachida du CHO3, du collectif des habitants organisés du 3e. On ne peut pas parler d'habitat sans souligner un peu la difficulté d'accès. On a une petite pensée pour Wafa, qui avait préparé cette émission avec nous et qui ne peut pas être présente. Et en tout cas, elle avait souhaité, elle, nommer un peu les différentes étapes de logement, notamment pour les personnes qui n'ont pas les bons papiers. Et donc, que ce soit via les hôtels, les squats, les liens avec les marchands de sommeil. Et en fait, enfin, le Graal, celui d'être locataire. Voilà, elle nous manque. Mais en tout cas, Amadou, je te laisse la parole pour la suite.
Bonjour. Je voulais demander à Rachida et Dounia, qui sont ici avec nous, un petit peu leur ressenti en tant qu'habitante et travailleuse sociale dans le 3e. Quelles observations vous faites un petit peu au niveau de difficultés pour se loger dans le 3e et de l'évolution un petit peu de ces questions-là depuis dans le temps? Est-ce que c'est des choses qui empirent, qui s'améliorent? Est-ce qu'ils tendent à s'améliorer? Je ne sais pas qui veut répondre en premier à cette question.
Bonjour, merci Rachida. Beaucoup pour cette question. En fait, je parle En fait, il n'y a pas, beaucoup de pas beaucoup de logements dans le troisième. Il y en a beaucoup de marchands en sommeil. Il y en a et qui exploitent les gens, surtout les personnes qui n'ont pas les bons papiers. Même les personnes, en fait, les propriétaires, ils exagèrent du droit pour avoir un logement. Il faut 3 fois de loyer. Et des fois, même avec contrat de travail, les gens, ils ne trouvent pas les appartements. Et moi, si je parle tant que personne PMR, eh ben, il n'y a pas du tout des logements des personnes PMR, surtout les personnes qui portent le fauteuil. Et soit s'il y a des logements, il y a l'ascenseur, que toujours il y a un problème des escaliers ou il y a un problème de l'ascenseur qui tombe en panne. Voilà.
Est-ce que pendant qu'on parle un petit peu de cette question d'accessibilité des logements PMR, il y a Patrice qui est donc président de l'association Handitoi aussi avec nous. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette accessibilité des logements pour les personnes à mobilité réduite ?
Ben, l'accessibilité du logement, c'est essentiel. Parce que si on ne peut pas sortir de chez soi, ben, on ne peut rien faire. Hein. Donc nous, avec l'association Handitoi, c'est un de nos objectifs, justement, de permettre à des personnes en situation de handicap moteur et notamment les personnes en fauteuil roulant d'avoir des logements adaptés pour avoir une vie digne. Et pouvoir, après, ben, on parle de société inclusive, mais c'est ça, c'est pouvoir sortir de chez soi et de pouvoir s'inclure dans la société. Donc nous avons des partenariats avec différents bailleurs pour pouvoir justement adapter ces logements. Après, la difficulté, c'est qu'il y a une grosse crise du logement, donc il y a très peu de logements neufs qui sont faits. Et donc du coup, ben, très peu de logements adaptés aussi qui en découlent. Alors, nous, on a eu la chance en 2002 de faire des partenariats avec deux bailleurs sociaux, Erilia et SFHE, et au boulevard Boisse, donc de faire des logements adaptés dans des programmes de logements sociaux. Donc il y a 14 logements au boulevard Boisse qui sont occupés par des personnes lourdement handicapées en fauteuil roulant, qui peuvent vivre comme monsieur et madame tout le monde dans des logements de manière autonome, en sécurité et en liberté, parce qu'en plus de ce logement adapté, nous avons aussi une auxiliaire de vie qui interviennent 24h sur 24 auprès des habitants.
D'accord, ben merci beaucoup. Et vous avez, s'il y a encore des personnes qui sont demandeurs, vous avez toujours des appartements disponibles, il y a une longue liste d'attente ou c'est très compliqué pour le moment ?
Alors, on n'a pas, nous, des appartements. Handitoi n'a pas d'appartement. Nous, on fait le lien entre les bailleurs sociaux et les personnes qui demandent des logements. Donc, on a une liste d'attente de 2800 à peu près personnes sur toute la région, c'est pas que Marseille. On va dire les Bouches-du-Rhône, c'est un peu plus de la moitié. Donc ça va être aux alentours de 1800 demandes. Des personnes donc, qui ont des logements ou qui ne sont pas accessibles ou qui ont des marches, qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Et la difficulté, c'est qu'il y a très peu de rotation, parce qu'une fois que la personne est en fauteuil roulant est dans un logement, ben, elle ne le quitte pas. Donc le turnover se fait ben, qu'il y a malheureusement des décès ou des maladies ou quand des personnes doivent déménager. Donc c'est pour ça que nous, vraiment, on fait un genre de lobbying, on va dire, auprès des bailleurs sociaux pour qu'au niveau de la construction, qu'ils fassent des logements adaptés, puisque la loi aujourd'hui oblige 20% de logements accessibles, mais accessible ne veut pas dire adapté aux personnes en fauteuil. Hein, parce que dans les logements accessibles, il peut y avoir des baignoires. Et donc, voilà, quand on a un fauteuil, une baignoire, c'est compliqué à utiliser. Donc voilà, nous, en œuvre, on fait des conventions avec les bailleurs et beaucoup jouent le jeu, d'autres moins. Mais voilà, on ne lâche pas. Nous, on œuvre pour justement... pas forcer, mais en tout cas, faire une pression sur les bailleurs pour qu'ils prennent l'handicap en considération.
Dounia, toi, tu es un petit peu observatrice un petit peu de ces difficultés à la recherche du logement. Donc, ça ne concerne pas uniquement les personnes à mobilité réduite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu observes par rapport à tous ces gens qui recherchent des logements ici dans le quartier de la Belle de Mai ?
Alors du coup, moi, je suis travailleuse sociale au sein du CCAS sur une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro non-recours, où on accompagne les personnes habitant le 3e arrondissement en rencontrant une difficulté d'accès aux droits. Et effectivement, la question du logement est une question qui revient et qui est récurrente dans nos accompagnements, car ce que disait Rachida tout à l'heure est totalement réel, c'est qu'il y a pas de logement ou peu de logement. Et lorsqu'il y a des logements, parfois on constate des difficultés d'insalubrité ou autres à l'intérieur de logements, des logements inadaptés à la composition familiale, inadaptés à la situation de handicap, de ce que disaient Patrice et Rachida. Donc effectivement, c'est une réelle difficulté, une réelle question aujourd'hui. Et dans l'accompagnement aussi, pour nous, en tant que travailleurs sociaux, c'est très très compliqué d'arriver à trouver des solutions. Et quand on reçoit les personnes, on est assez réaliste sur cette difficulté-là.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des procédures qui peuvent exister? J'ai entendu parler d'une procédure qui s'appelle la procédure DALO.
Oui.
On en entend beaucoup parler, des gens qui... Est-ce que tu veux nous dire de quoi il s'agit ?
Oui, bien sûr. Alors, DALO, ça veut dire droit au logement opposable. Donc, en fait, cette procédure-là est une procédure qu'on peut solliciter quand on a des difficultés d'accès au logement. Donc, il y a différents critères et conditions pour pouvoir faire ce dossier-là. Donc, ce dossier-là peut se faire seul ou accompagné d'un travailleur social. Principalement, les demandes que nous, en fait, les personnes nous sollicitent, c'est pour des personnes qui n'ont pas de logement, ou des personnes qui ont un logement qui est inadapté. Donc inadapté, il y a plusieurs critères. Ça peut être une suroccupation du logement, ça peut être une insalubrité, ça peut être un souci lié à la santé. Donc que ce soit handicap ou autre, il peut avoir aussi d'autres difficultés. Et ça peut être aussi, comme disait Rachida, les marchands de sommeil avec des logements où les personnes ont des loyers, des montants de loyers exorbitants puisque ce n'est pas dans le parc social. Et donc cette démarche de DALO, c'est... dire à l'État, j'ai fait toutes les démarches, j'essaye de trouver une solution, mais malheureusement, je n'y accède pas. Et donc, c'est une commission qui étudie le dossier. Donc, il y a plusieurs critères et après, il y a des délais d'attente. Ça, il faut être réaliste. Des longs délais d'attente pour avoir une réponse sur une proposition de logement.
Les délais, c'est à peu près des mois, des années?
Alors, il y a, on va dire sur le papier, un délai légal qui est notifié, hein, comme quoi dans les 6 mois, les personnes pourraient avoir une réponse. Mais la réponse, ça peut être soit un rejet de la demande parce que la personne ne remplit pas tous les critères d'éligibilité au DALO. Parce qu'il faut savoir que les critères, déjà, il faut déjà avoir fait une demande de logement social, par exemple, mais avoir 36 mois d'ancienneté. Donc déjà, ça veut dire quand même un délai d'attente important. Et après, pour une proposition de logement, il s'engage à proposer dans les 6 mois au moins un logement. Mais on est réaliste sur le fait que sur Marseille, en tout cas, c'est très très compliqué d'accéder à un logement aujourd'hui.
Et Dounia, tu veux nous parler du territoire zéro non-recours, du coup l'expérimentation sur laquelle tu travailles?
Bien sûr. Donc territoire zéro non-recours, donc, c'est une expérimentation qui est portée par le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale de Marseille. On intervient essentiellement sur le 3e arrondissement de Marseille en partenariat. En fait, comme disait tout à l'heure Christophe, hein, des centres sociaux, on a des permanences directement, on fait de ce qu'on appelle de l'aller vers. Le principe est de rencontrer les personnes qui ont une difficulté d'accès aux droits et qui n'arrivent pas à accéder aux institutions publiques, qui n'arrivent pas à accéder à des associations ou autres. Et on propose de rencontrer ces personnes et d'essayer d'enlever les freins en fait, d'accès, que ce soit le logement, un problème avec la CAF, un problème alimentaire. Voilà. On essaye de couvrir tous les droits possibles. Et le principe, quand même, c'est de raccrocher les personnes aux institutions existantes, aux associations existantes, de faire le lien, en fait, avec tout ce qui existe déjà sur le territoire du 3e arrondissement.
OK. Et comment est-ce que les gens peuvent venir vers vous? Où est-ce qu'on vous trouve?
OK. Alors, du coup, on est essentiellement sur des centres sociaux, donc je vais les citer. On est au centre social Belle de Mai, à la fraternité de la Belle de Mai, au centre social Kléber. On est également centre social Belle de Mai et au centre social Saint-Mauron. Donc les personnes peuvent se présenter directement auprès des centres sociaux pour prendre rendez-vous avec nous. Donc on a des permanences fixes, mais c'est vrai que c'est bien de prendre rendez-vous en amont parce que des fois on est déjà complète, mais du coup les personnes peuvent se présenter directement.
Très bien, merci beaucoup.
Mais de rien.
Rachida, je reviens un peu vers toi pour revenir un petit peu sur ton engagement auprès du CHO3. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment tu es arrivée là-bas et quelle action tu fais avec eux? Quel est ton engagement avec eux?
Je suis arrivée au CH3 la période de Covid. J'ai rencontré le CH3 quand j'étais toute seule. Et mon action aujourd'hui, c'est droit au bus. droit au bus, c'est-à-dire pour les personnes PMR, en subissant toutes sortes de discriminations. Voilà, donc soit on prend un bus sur 3 ou un bus sur 4 qui n'est pas accessible, soit on appelle Mobi Métropole. Pour appeler Mobi Métropole, il faut 48 heures à l'avance et la priorité toujours pour les personnes. Qui travaillent. Donc, nos droits, nos besoins de dire j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de bouger de toute Marseille. J'ai pas le droit, c'est pas que je bouge sur le 3e ou 2e. J'ai envie de sortir, j'ai un rendez-vous, je sors comme tout le monde. Il y a une rampe, il faut que la rampe elle marche. Il faut que le chauffeur il serait tout informé pour utiliser cette rampe. On a marre d'exclusion, quoi.
Ok, merci beaucoup. Et on a rapidement parlé de l'accès au logement qui est très compliqué. Et en fait, le problème, c'est aussi une fois qu'on a un logement, on croit qu'on est arrivé au bout du bout. Toi, Rachida, t'en parlais la dernière fois, je pense, à l'émission aussi. Enfin, il y avait ce truc-là en fait, ça donne quoi une fois qu'on a les logements? Et du coup, je ne sais pas si vous avez aussi envie de parler de... Bah, c'est quoi les enjeux pour les personnes à mobilité réduite? Mais dans le bâtiment, une fois qu'on a l'habitat, en fait, qu'est-ce qui se passe d'autre? Je ne sais pas... Peut-être tu peux prendre la suite de l'animation. Merci.
Ah. Avoir un logement, c'est un début. Mais après, c'est aussi de pouvoir avoir des soins. Puisque moi, je suis tétraplégique. Et si le matin, je n'ai pas des infirmiers qui viennent me faire la toilette, des auxiliaires de vie qui m'habillent, des personnes qui me font le repas, ben, je peux rien faire de ma vie. Donc c'est aussi ça, l'accès aux soins. Et là aussi, c'est le parcours du combattant. C'est très compliqué. Moi, par exemple, j'ai eu 2 années où je n'ai pas eu d'infirmier. Voilà. Parce que soit ben, s'occuper d'une personne handicapée, c'est trop long, c'est trop lourd, c'est pas assez rentable. Donc, c'est tout ça qui est compliqué. C'est après aussi des kinés qui viennent à domicile. Dans le 3e arrondissement, c'est très compliqué à avoir. Enfin, ouais, c'est... Avoir un logement, oui, mais après, c'est tout ce qu'il y a autour qui permet aussi d'avoir une vie digne, aussi qui est compliqué. Et moi, qui suis donc Marseillais, je suis né à Marseille, j'ai fait différents arrondissements, le 12e, le 11e, le 3e. Je veux dire que c'est un peu plus compliqué dans le 3e que dans les autres arrondissements où j'ai vécu. Quoi. Voilà, pour l'accès aux soins.
Moi, je veux pas répéter ce qu'il a dit, parce que voilà, donc je veux rajouter aussi accès de sortir de logement. Parce qu'après, c'est difficile s'il est au 2e étage. Si l'ascenseur elle est en panne et le logement il est accessible, il ne peut pas sortir. S'il sort, il trouve une voiture garée au trottoir, il n'est pas accessible. S'il n'a pas de pente au trottoir, il n'est pas accessible. Il faut parler. En fait, ce n'est pas un confort qu'on charge. C'est des besoins. Si je dis que j'ai besoin, c'est-à-dire qu'il y en a certains moments que je ne demande pas aux gens pour m'aider pour sortir. J'ai envie de sortir toute seule. J'ai envie de bouger, d'aller partout. J'ai envie de prendre l'air, le temps où je veux, moi. Donc, c'est pas qu'on demande... En fait, là, on demande nos droits collectivement parce que nous, on lutte tous les jours individuellement. Et ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'on mette la main dans la main pour avancer et pour gagner plus vite. Parce qu'on ne sait pas, on est là aujourd'hui, demain, on n'est pas là. On va laisser ce confort qu'on vit aujourd'hui grâce à aux gens qui étaient là. La moindre des choses, on demande de respecter la loi de 2005 de l'accessibilité. C'est tout.
Merci pour vos témoignages. Et du coup, on va. Moi, j'aurais voulu avoir un peu vos expériences sur. Et puis les expériences des personnes que vous avez rencontrées, que vous côtoyez dans vos différents collectifs, sur la qualité de l'habitat dans le 3e en termes de salubrité. Est-ce que vous avez envie, peut-être, de nous raconter?
Oui, je peux commencer, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, par rapport à ça, c'est souvent aussi les personnes qui nous sollicitent, donc moi, dans le cadre de mon accompagnement, des logements qui sont insalubres, donc avec des problèmes d'humidité, d'isolation, des problèmes de nuisibles, des problèmes dans les parties communes aussi. Donc c'est vrai que depuis que l'expérimentation a commencé, ça fait donc maintenant un an et demi, effectivement, on constate que les personnes que l'on rencontre, même si elles ont un logement, le logement est dans un état inhabitable, concrètement.
Dans le cadre de mes visites avec les compagnons bâtisseurs, on va du coup chez l'habitant qui va exprimer des inconforts ou des problèmes au niveau de leur logement. Donc depuis que je travaille là-bas, depuis presque un an, on a observé beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes qui vont toucher à ce qu'est le décret d'essence, c'est-à-dire le fait que l'habitat dans lequel ils sont n'est pas décent. Donc on va avoir beaucoup de problèmes de moisissures, beaucoup de problèmes de murs qui sont dégradés, des logements avec des fuites, des loyers qui sont très hauts, des propriétaires qui sont aux abonnés absents quand on va demander des réparations qui sont à leur charge, etc. Donc on essaie de travailler un petit peu autour de ça pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça.
Madou, je veux poser la question. Le droit au logement digne est un droit universel du droit humain depuis 1948. Comment faire respecter ce droit d'écrit, d'essence, plus le signalement de logement? Merci.
Donc oui, je parlais juste à l'instant de ce décret d'essence. Donc c'est un décret qui est arrivé en 2002, qui permet un petit peu de donner des critères sur la décence d'un logement. Et dès qu'il y a un manquement à l'un de ces critères, on peut considérer qu'un logement n'est pas décent. Donc nous, on va observer ça dans des visites, ou même vous pouvez consulter directement ce décret pour le comparer à votre logement. Et vous avez une possibilité ici à Marseille sur un site qui s'appelle Signal Logement. Et vous allez pouvoir signaler votre logement. Et ainsi, il va y avoir des procédures qui vont pouvoir être faites pour pouvoir demander à votre propriétaire, si vous êtes allocataire CAF par exemple, de faire les réparations nécessaires pour pouvoir de nouveau retrouver un logement qui va être décent. Comment ça se passe dans les faits? C'est que si vous avez des droits à la CAF va pouvoir supprimer les allocations à votre propriétaire. Vous n'allez pas perdre d'argent, mais votre propriétaire ne va pas gagner cette allocation CAF. Donc ça va mettre une certaine pression pour le propriétaire pour qu'il fasse ses travaux. Donc c'est un moyen de pression un petit peu. La décence du logement, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres choses qui vont être plus au niveau de la sécurité, de la salubrité du logement. Et à ce moment-là, il y a la possibilité de signaler auprès de la mairie, auprès de la préfecture, votre logement pour le mettre en sécurité. S'il y a des risques de sécurité, d'effondrement, s'il y a des risques au niveau de la salubrité, donc au niveau de la santé avec des infestations de nuisibles ou s'il va y avoir des moisissures ou des choses où on pense que la santé est mise en cours. Et à ce moment-là, la mairie ou la préfecture vont à ce moment-là aussi avoir leurs responsabilités et vont pouvoir aussi mettre en sécurité les logements.
Concernant les droits des locataires et devoirs des propriétaires, tu peux nous parler des ateliers autodéfense logement animés par les compagnons bâtisseurs, notamment au CHO3.
Alors il y a quelques années, le CHO3 a mis en place des animations d'information aux droits. Ça avait lieu au cours de l'année pour auprès des habitants. Parler un petit peu des droits et du coup donner un petit peu toutes les informations. Régulièrement, nous, au cadre de nos ateliers qui ont lieu toutes les semaines, on va aussi parler avec les gens qui viennent dans les ateliers des questions qu'ils ont, des besoins qu'ils ont, et on va essayer de travailler ensemble pour leur donner un petit peu de réponse à toutes ces questions. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà des dates pour des prochains ateliers, si vous pouvez vous rencontrer et participer?
Alors, tous les un jeudi par mois dans les prochains mois. Donc, un ici au mois de novembre, octobre, novembre, décembre et en janvier. On va faire des ateliers de bricolage et d'information au droit au sein de la cité Clovis-Sug à Saint-Mauron. Donc si vous voulez avoir les dates plus précisément, vous pouvez revenir vers nous, les compagnons bâtisseurs. C'est des ateliers qui sont ouverts et en partenariat avec 13 Habitat, pardon. Donc voilà, vous pouvez joindre ça. Et sinon, tous les vendredis, vous pouvez nous trouver au centre social de la Belle de Mai. On fait aussi des ateliers de bricolage. C'est le vendredi entre 9h et midi. C'est ouvert à tout le monde. Et donc, c'est pour faire des premiers ateliers de bricolage et aussi de l'information, répondre à vos questions, etc.
Et quelles sont vos activités, les compagnons bâtisseurs, pour les habitants du quartier ?
Donc voilà, il y a ces ateliers-là les vendredis où on va, par exemple, apprendre à bricoler, se servir d'une perceuse, se servir, travailler un peu le bois, faire un petit peu de plomberie, d'électricité. Et on va aussi directement faire des visites chez les gens pour faire avec eux, en collaboration, des petites réparations locatives dans l'habitat. On essaie d'aller vers les gens aussi, on fait un petit peu du porte-à-porte pour rencontrer les gens. Et on se joint aussi à des événements comme aujourd'hui pour essayer de rencontrer un peu les habitants du quartier.
Merci.
Merci à toutes et tous. On a les travaux pour nous accompagner. Je pense que ça va être un des sujets de la suite du plateau, qui est doux aux oreilles, n'est-ce pas ? On est bien là. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé, de nous avoir fait passer vos témoignages. Je ne sais pas si vous avez des dernières choses à dire, si vous avez envie de faire passer un message peut-être. C'est le moment. Ensuite, je vais conclure. Non,
je vais juste reprendre le mot de Rachida. Enfin, on a fêté en février dernier les 20 ans de la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances. Et on ne veut pas plus juste que cette loi soit appliquée au niveau des logements, au niveau de l'accessibilité, voilà, pour avoir... le droit de pouvoir sortir, de pouvoir bénéficier de la culture aussi, de travailler pour certains. Voilà.
Je vous remercie beaucoup. Ouais, vas-y.
Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au droit des locataires et devoir des propriétaires. Il y a aussi l'ADIL 13 qui propose des permanences juridiques gratuites. Donc, par exemple, du lundi au vendredi à la rue de la République. Donc si les personnes ont besoin de renseignements sur leur logement, pas pour de la recherche de logement, mais avec une difficulté avec le bailleur, ils peuvent tout à fait se présenter, c'est sans rendez-vous, et c'est des juristes et c'est gratuit, donc faut pas hésiter.
Super, et ben j'enchaîne avec le syndicat du logement aussi qui vient de se monter sur Marseille il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez, et du coup qui s'est monté avec notamment les personnes du collectif du 5 novembre et puis l'Assemblée des délogés à Noailles. En tout cas, ils sont aujourd'hui présents avec des porteurs et des porteuses de parole au marché. Et bon, le syndicat logement, ils se montent, mais ils ont voilà, besoin de tous et toutes de se retrouver. Du coup, pour les rencontrer, les permanences, c'est le premier mardi du mois à la Fraternité à partir de 18h. N'hésitez pas à passer les rencontrer. Je vous remercie à tout le monde qui s'en va. Et c'est la fin de ce plateau. On va faire une petite pause musicale et on enchaînera ensuite. Merci beaucoup.
On a roulé sans essuie. glace. On a caché ce qu'on avait de plus précieux, la cagoule et puis les bottes de sept lieux. On mouillait le maillot tout à la fois, être trimard et saltimbanque, tu le crois.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
et cette folie on l'a faite.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement,
non.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement.
L'autre jour j'ai même dit à Mousse, il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets.
Je me souviens on était tellement pliés, on a envié
deux secondes
le monde ouvrier. Allez roulez si t'as plié dans le ventre, on vient, on met le feu et puis on rentre.
La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie, Camol, Doliprane et Sagidal sont les trois mamelles des tueurs de balles.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace.
Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a faite.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non non.
De changer les fringues, qu'est-ce que t'en penses? On s'achète, je sais pas moi, une ambulance. On arrive du bonheur lorsque chantait la foule. Le petit, oh, sur des valises, c'était cool.
Pas de cadeaux, pas de traîne et pas de fleurs. Si t'as mal au mollet,
sèche tes pleurs.
Y'a pas d'arrangement et c'est la formule. Sinon garde ta baignoire et va faire des bulles.
Et si le spectacle et sa légende, quand y'en a un qui tombe, l'autre en redemande. La tête cassée, le reste à la dérive. Sans petit tour, mais que les caches suivent.
Y'a pas d'arrangement,
pas de grimace.
Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a faite.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement,
non.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement,
con.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement,
non.
Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement.
Et on est de retour sur la place aux Solidarités, en direct de la place Canna, dans le 3e arrondissement de Marseille, pour l'émission Alors la zone ça discoite, une émission spéciale sur Radio Galère 88.4 FM. Donc on a pas mal parlé sur la partie précédente de l'habitat, et maintenant on va parler plutôt du quartier d'Abel de Metz, du 3e arrondissement plus largement. Sur ce plateau-là, on va animer avec Nacera. Salut Nacera.
Bonjour Thomas.
Et on sera aussi du coup avec Douja et Imen du collectif On le fait pour nous.
Bonjour.
Et Hélène du collectif Centre-ville pour tous.
Et
CHO3. Et CHO3, pardon. Et peut-être on voulait commencer parce que sur le en tout début, Kira n'avait pas eu le temps de faire une petite parenthèse sur d'autres activités que mène le collectif On le fait pour nous. Imen, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la question justement de l'accès aux droits administratifs, la question des papiers, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous organisez pour peut-être donner des informations aux éditeurs auditrices du 3e arrondissement et voilà, qu'ils aient des billes. On t'écoute.
Bonjour tout le monde, bonjour.
Oui, on a beaucoup de travaux, donc il faut pousser un peu la voix. N'hésite pas, Imen, à donner ta plus belle voix pour être au-dessus du marteau-piqueur.
Merci.
Bon, nous, le collectif, on est pris pour nous. On a pensé à faire des ateliers pour informer les gens et pour connaître leurs droits. Du coup, on a fait plein d'ateliers en collaboration avec le PAD, c'est des juristes spécialisés en droit des étrangers. On a travaillé sur des bases de données, pour bien détailler chaque, chaque chapitre, qu'est-ce qu'il faut pour les étrangers comme information. Du coup, on a fait pour le droit des étrangers, pour les, la régularisation et pour la naturalisation. On a fait deux ateliers différents, parce que comme c'est vaste, on a fait un atelier de demandeurs de titres de séjour et tout. Et le deuxième jour, on a fait pour la naturalisation et tout ça. Et
c'est des ateliers qui sont ouverts au public.
Au public, okay. Et au tout le monde. Justement, c'est le but pour que les habitants soient, ils sont sans papier ou avec des papiers, c'est pareil, c'est ouvert pour tout le monde. Comme ça, ils savent leurs droits et on leur montre les démarches à faire, parce qu'il y a des démarches à faire. Et il n'y a que les juristes ou les connaisseurs de droit qui savent.
Est-ce qu'il y a des prochaines dates ou des, pour ces ateliers-là là, dans, le, dans les prochaines semaines?
Pour l'instant, on n'a pas de prochaines dates. Okay. Du coup, on a demandé à la friche de rajouter des créneaux sur le troisième, parce que il faut que ça soit financier et tout. On a demandé à la friche et on attend la réponse.
Okay.
Voilà, on aimerait bien de travailler sur ça, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes et on a eu aussi beaucoup de demandes pour faire d'autres ateliers comme ça.
Ok, merci beaucoup pour ce petit point d'information. On va continuer avec Nassera qui va vraiment animer ce plateau. Nassera, je te laisse la parole.
Bonjour tout le monde. Moi, j'ai en face de moi un membre de collectif, on le fait pour nous. J'ai en face de moi Doudia. Je poserai quelques questions à Doudia. Alors, peux-tu nous décrire l'état des rues de Belle-de-Mai ?
Les rues de Belle-de-Mai sont souvent en mauvais état. Il y a de tout. Des pavés, il y a des pavés déformés et parfois des déchets qui traînent.
Et est-ce que quand on se balade à la Belle-de-Mai, du coup, je sais pas, est-ce que là on entend beaucoup de travaux, visuellement, est-ce que tu peux nous décrire, là, par exemple, sur cette place, les différentes rues autour de la place, c'est à quoi ça ressemble pour que les gens qui nous écoutent
C'est une grande place qui, on peut dire, partagée par deux. Une grande place où il y a le marché qui est situé au milieu. Et après, il y a la grande place où on est maintenant. C'est devant l'école de Cadena. Et c'est un lieu, des fois, partagé par les enfants qui jouent, des passagers, des personnes âgées qui se reposent dans les bancs qui sont dans la placette. Et après le rue, il y a le problème de rue qu'il y a. C'est un peu, les trottoirs, ils sont petits, il y a pas mal de stationnements de voitures et c'est un peu difficile à passer.
Est-ce que ça a toujours été comme ça, le quartier ?
À mon avis, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup des habitantes qui parlent de changement dans le quartier. Ils ont demandé plusieurs fois de changer le quartier. Mais si on va en arrière, non, elle n'était pas comme ça.
C'est quand en arrière
C'est des années en arrière. J'ai entendu parler par des personnes âgées que c'était beau. C'était un peu la Belle-de-Mai, c'était le centre de Marseille. Il n'y avait pas mal de commerçants. C'était un lieu vivant. Et très chic.
C'est vrai que la vieille génération, on se souvient de Claude le boucher qui était sur la place, racontait que la rue Clovis Hugues était le Champs-Élysées de Marseille.
Oui, j'ai entendu tout ça. Moi, j'ai pas vu ça. Mais j'ai entendu ça des personnes âgées et ils ont aimé parler de l'ancienne Belle-de-Mai.
Mais du coup, ça contrasterait avec aujourd'hui l'état du quartier ?
Oui, c'est vraiment dégradé et ça, on va voir comment ils ont. Elle était. C'est laissé plusieurs années avec sans qu'il y a des personnes qui s'occupent de sa situation, soit la propreté, soit le travaux, soit il y a beaucoup.
Vas-y, continue. Okay.
Ok, allez.
Et c'est comment de se déplacer à pied dans le quartier ? Est-ce qu'on peut marcher facilement sur les trottoirs, même pour les personnes à mobilité réduite, même pour les mamans qui ont des poussettes ? Est-ce qu'on peut marcher facilement dans ce quartier de Belle-de-Mai ?
Facilement, non. Parce qu'il y a toujours le problème de stationnement que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a les voitures qui stationnent n'importe comment. Il n'y a pas grand, il y a pas les trottoirs, elle n'est pas très assez large. C'est pas difficile pour les personnes au fauteuil roulant. C'est pas difficile pour les mamans avec les poussettes. Avec les enfants aussi, il y a beaucoup de dangers parce que direct, il y a la route et c'est pas trop sécurisé. Et il n'y a pas beaucoup de passages piétons aussi. Et c'est très... Ah, les saletés aussi, ça.
Il y a le public, il y a le public qui souffle derrière.
Il y a le public qui me dit, vous n'oubliez pas qu'il y a trop de crottes de chiens, il y a trop de saletés dans la rue. Et ça, c'est vrai, c'est gênant. Pour les mamans avec leurs petits-enfants.
Et je voulais juste te dire pour le public, on va faire un petit moment de libre antenne à la fin pour que vous puissiez ramener des témoignages du quartier sur vos habitations. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. En tout cas, vous aurez la parole pour parler des crottes de chiens ou d'autres choses dans le quartier. Merci de vos participations et merci d'être là.
Et est-ce que le quartier de la Belle de Mai, il est aussi bien traité que les autres quartiers de la métropole, par exemple? Quelle différence avec le quartier du centre-ville avec Aix? Quelle est la différence?
Ah là, tu touches un gros point pour moi. La discrimination entre les quartiers. Et ça, c'est tellement j'ai parlé parce que vraiment, si on voit les autres quartiers, notre quartier, elle était laissée, abandonnée pendant beaucoup d'années. Et on va pas demander c'est qui, mais tout le monde, il sait pourquoi elle était là. Elle était laissée comme ça. Et ça, c'est pas juste ni pour nous, ni pour notre quartier. Et vraiment, c'est injuste, cette discrimination. C'est le problème de...
Et comme vous entendez, c'est un quartier en plein chantier. Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? Et est-ce que les habitants et les habitantes ont été concertés, informés de tous ces travaux-là?
Et avant que j'oublie, parce qu'on a parlé de la discrimination de laisser notre quartier, parce que si on voit les autres quartiers, on voit que le métropole ne s'occupe pas de notre quartier, parce qu'il a laissé à l'abondance. Ce n'est pas comme Aix, comme ici, à Marseille. Oh, globalement, c'est la discrimination, ça commence entre Aix et Marseille. Et après, entre les quartiers nord et le quartier sud. Ça, une fois, il fallait que je le dise.
Et c'est bien aussi que tu rappelles que c'est le travail de la métropole.
Oui, c'est le travail de la métropole, tout ce qui est travaux, tout ce qui est les poubelles, tout ce que c'est pas ça, c'est la différence entre la mairie et la métropole. Et les gens, ça, ils le savent pas. Et notre problème, c'est que l'abondance s'était fait avec le de part de métropole.
On dit souvent, d'ailleurs, on dit souvent que dans le troisième ou dans les quartiers populaires, les gens sont sales, que les gens sont pauvres, etc. Non. Mais en fait, le problème, c'est pas tellement les gens qui habitent. Le problème, c'est les services publics.
Non, c'est les services publics. Ils sont pas actifs ici. Ils travaillent pas. On le voit travailler ailleurs comment ils sont, et ici, non, c'est pas la même chose. Et toujours, on est laissé à l'abondance.
Et Hélène, tu as quelque chose à dire un peu sur justement cette question des pouvoirs publics et l'abandon qu'on ressent, nous, habitants du 3e arrondissement?
Alors, je confirme l'abandon depuis des décennies, pas d'opération d'aménagement. En 2014, un projet appelé Quartier Libre qui devient un projet fantôme, un projet urbain où justement la question du logement était singulièrement absente. On ne parlait pas du logement et de façon récurrente, nous, c'est ce qu'on demandait. Et en plus, tu parlais de concertation. Lorsqu'il y a eu concertation, c'était un peu à nous, les habitants, qu'il était demandé d'aller chercher les publics les plus éloignés, bien entendu, parce que dans les concertations, c'est les fameux « toujours les mêmes ». C'est-à-dire, c'est moi, et ça, c'est pas normal, quoi. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, c'est des gens comme moi, quoi. C'est un profil.
Tu peux décrire.
Ben, je suis blanche et je suis classe moyenne, quoi. Je suis considérée, voilà.
Et est-ce que tu peux décrire la population qui habite la Belle de Mai pour, en tout cas,
ben, elle est diverse, la population qui habite la Belle de Mai. Le 3e arrondissement et la Belle de Mai, on est un quartier d'accueil. Parce qu'on fait en tout cas office d'accueil. Ce qui veut dire que, et surtout ces 15 dernières années, il y a eu des populations de Marseillais qui sont parties à cause du déficit d'équipement public, en termes d'école, mais pas que. Et ils ont été remplacés par des personnes qui arrivaient et qui pouvaient être d'origine étrangère. avec ou pas les bons papiers, hein, ça c'est autre chose. Et c'est aussi lié au fait que le logement est devenu un bien, un produit qui doit rapporter. Et donc se sont installés aussi des propriétaires indignes, parce qu'on parle beaucoup du logement indigne, mais ce sont les propriétaires qui sont indignes. Et sur les questions de propreté, moi, complètement, j'adhère totalement à ce que vient de dire Douja. Hein, c'est, on voit la différence. Hein, y a des quartiers où c'est nettoyé 2-3 fois par jour. À la Belle de Mai, c'est très mal nettoyé. Hein, c'est, et encore, moi, je ne me plains pas, je suis dans une rue où ils nettoient à peu près. Mais je sais qu'il y a des rues où ils ne viennent pas. Hein, on a l'impression que vraiment, ils ne viennent pas.
Ce n'est pas question de nettoyage, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Par exemple, on voit une poubelle, elle n'est jamais ramassée une semaine après, peut-être. Donc, il n'y a pas de suivi.
C'est ce que j'appelle le nettoyage. Hein.
Voilà, et les rues, elles sont toujours sales. C'est dommage, il y a des écoles, il y a des piétons, c'est incroyable. Il y a plein de souris aussi, des rats qui ressemblent à des chats.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé de l'habitat et des nuisibles qu'il y a à la Belle de Mai. On a des cafards, des punaises de lit, des rats. Mais tout ça, c'est très lié aussi à l'état sanitaire qu'il y a dans les rues et à la propreté des rues.
Oui, parce que à mon avis, pour qu'on parle de l'habitat, on parle de la rue. Si la rue, elle était propre, bien nettoyée, bien s'occuper, bien, on tient l'importance de notre rue, ça sera pas comme ça chez nous, dans les habitants.
Et je peux ajouter quelque chose, parce que c'est d'autant plus important que nous sommes dans un quartier, dans un arrondissement, où beaucoup de personnes vivent dans des appartements qui sont trop petits. C'est ce qu'on appelle la suroccupation, hein, c'est un critère aussi de logement indigne. Et donc l'espace public, c'est un espace qui est investi par les personnes qui vivent dans de mauvaises conditions. Je parle de la suroccupation, mais il y a aussi le problème pendant l'été, quand il fait très chaud, quand il y a la canicule, des appartements qu'on ne peut pas ventiler. Donc c'est aussi pour toutes ces raisons que l'espace public est un espace important dans les quartiers populaires.
Et on en manque ici dans la Belle de Mai, pas mal de lieux où les gens ils peuvent pas être bien chez eux, de sortir et de se mettre dehors, parce qu'on on manque de moyens, de lieux, de tentes, de lieux verts.
Ouais, de parcs.
Des parcs, oui, on en manque.
En fait, il y a eu une privatisation aussi des espaces publics. Je me souviens que à l'émission, dans la préparation de cette émission, tu parlais du parc de la maternité qui est juste au-dessus.
Oui.
Et qui a été découpé puis vendu pour en faire en fait un hôtel de luxe.
Ouais.
Et ils ont réduit l'espace du parc à quelques mètres carrés qui sont utilisés par des propriétaires de chiens, souvent des classes moyennes, blanches, sans vouloir.
Ça veut dire. J'ai pas de chien. Hein.
Pourtant, la Belle de Mai, elle est multiculture. Il y a beaucoup d'habitants de toutes les origines. Et c'est vrai, les lieux, ils ne sont pas adaptés à tout le monde.
Et alors, on parlait, là, on entend la bande sonore des marteaux piqueurs dans le quartier. C'est omniprésent ces dernières semaines, mais pas que ces dernières semaines, depuis plusieurs années. Hélène, toi, tu as beaucoup suivi ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des rénovations un peu en cours dans le quartier et de comment la population du quartier a été impliquée ou pas là-dedans?
Alors, place Cadenas, il y a eu une concertation au centre social Belle de Mai, hein, sur l'aménagement. Là, ça veut dire que c'est la ville. On a, en termes de concertation aussi avec la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, la SPLAIN, comme nous l'appelons, donc qui a un projet de réhabilitation des logements très dégradés. Donc, ce qui est très bien, hein, je dois le dire, c'est très très bien qu'on réhabilite plutôt que de démolir. En revanche, pour nous, et là ça questionne les pouvoirs publics, l'État, la ville, la métropole, on trouve que c'est insuffisant, qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'argent public. Pardon, j'ai avalé une mouche.
C'est les aléas du direct en extérieur.
Donc, voilà, il y a des bêtes qui passent. Mais donc, c'est et les questions que nous posons et qui sont en fait des questions que nous allons poser au pouvoir public, c'est ces réhabilitations, en fait, pour qui ? Pour qui ? Voilà, ça c'est une vraie question et on ne lâchera pas l'affaire.
Alors du coup, pour peut-être aller dans cette question que tu poses, en effet, il y a peut-être un... En tout cas, on parle souvent du phénomène de gentrification. Toujours, est-ce que tu as l'impression que justement, il y a une hausse des loyers ces derniers temps? Tu as l'impression que dans le quartier, la population change, ou est-ce qu'on est quand même dans un quartier où les populations restent un petit peu les mêmes?
Non, ça change et c'est bien que la population elle est en train de... c'est sortir et dire on est là, les habitants du quartier, ils veulent participer partout, ils veulent donner leur mot. Donc on a parlé de consultation pour les places, le place de Cadena et tout, la ville a demandé l'avis aux habitants et on était là. Avec notre collectif, on a fait pas mal on a aidé pas mal pour des questionnaires parce que les habitants, des fois, s'attendent, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu vas vers eux, tu l'expliques et ça le facilite. Et ils répondent, ils sont là, ils viennent et ils participent pour l'avenir de leur quartier.
Mais du coup, donc, les pouvoirs publics vous ont plutôt questionné dans l'après, en tout cas dans l'accompagnement des rénovations urbaines qu'elles avaient envisagées. Est-ce que vous avez été consulté en amont pour réfléchir justement à ces différents aménagements et politiques publiques sur le quartier?
Oui, ça s'est passé et on a participé, ouais. Pas mal de...
Très bien.
Bon, d'une manière, moi, que je ne trouve pas encore adéquate. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire en France, hein, parce que là, ce n'est pas seulement à Marseille, sur comment on coproduit la ville. Hein, et c'est une question nous qu'on travaille à travers un projet européen sur lequel d'ailleurs des membres du collectif ont le fait pour nous et des membres du CHO3 ont participé. Hein. Donc c'est de dire comment on peut ensemble, des habitants, des militants, des professionnels, hein, il y avait par exemple des architectes avec nous ou des urbanistes, des élus, hein, avec tous ces gens. Comment on peut coproduire la ville ensemble? Et ça, c'est aussi des questions qui sont plus à long terme, mais qui sont importantes. Et si je peux compléter sur les questions de transformation, il y a eu aussi, parce que ça montre aussi l'absence de vision globale, et là je parle des pouvoirs publics, c'est qu'il y a eu aussi une concertation sur le périmètre de la gare, qui est un peu la poursuite de quartier libre. Hein. Et donc ça, c'est la métropole qui est en pilotage. Donc il y a ça. Il y a aussi le tramway. Alors là, ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Qu'est-ce qui se trame? Et je vois d'ailleurs un habitant qui en fait partie. Et je pense qu'il y en a plusieurs même parmi nous. Et donc, c'est eux qui sont allés à la pêche aux informations et qui ont organiser des réunions publiques. Mais comme on a pu le faire il y a vraiment quelques années, en 2014, quand il y a eu Quartier Libre, on a fait aussi des réunions publiques dans la rue, quoi, pour informer les gens. Ce qui veut dire qu'il y a des prestataires extérieurs, je pense à Respublica, qui peut être payé pour faire le taf, mais qui ne le fait pas.
Mmh. Oui, tout ce travail, en fait, on en revient aussi à notre raison d'être aujourd'hui ici, de tout ce travail qui devrait être assuré par des pouvoirs publics, au minimum financé, en fait, il est aussi beaucoup porté par des militants, par de l'énergie bénévole, par les habitants, par les personnes concernées. Il y a quelque chose où on a besoin de convoquer un peu plus les pouvoirs publics là-dedans, dans ces différentes missions. Merci beaucoup. Est-ce que Nassira, tu voulais ajouter quelque chose?
Merci pour ce témoignage. Et puis à bientôt.
Merci à vous aussi.
Merci à Douja et
Hélène. Merci beaucoup.
On va conclure ce plateau déjà en remerciant toutes les personnes qui ont participé. Je pense à Kira, Imen, Nassira, Douja, Hélène, j'ai déjà dit, Wafa, Mélina, Amadou, Coco. Sidi, Jules, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on voulait conclure ce plateau avec une petite prise de parole avec des personnes, peut-être le syndicat du logement qui a fait un porteur de parole sur la question du logement, peut-être pour nous dire deux, trois mots sur les témoignages collectés, ou d'autres personnes qui voudraient prendre la parole pour témoigner des conditions. Voilà, c'est un moment de libre antenne, donc les micros sont à vous. Alors, on a une personne qui se présente. Merci d'avoir le courage de venir. C'est pas toujours évident de prendre les micros comme ça, un peu à l'improviste. C'est super. Bonjour à vous.
Alors, voilà, en tant qu'habitante du quartier.
Bonjour, c'est super, on t'écoute.
Espérant que ça va s'améliorer pour le quartier en termes sanitaires et sécurité.
tu peux nous décrire un peu toi, du coup, quand tu parles d'amélioration, c'est quoi du coup les problèmes de sécurité et les problèmes sanitaires que tu vois ?
En termes global, la sécurité du quartier, les sanitaires, hygiène.
Sécurité, tu trouves qu'on est dans un quartier du coup où il y a beaucoup d'insécurité, où il y a plus d'insécurité qu'avant peut-être ?
Assez sensible, oui.
Ok. Voilà. Bon, bah, du coup, un mot un peu d'espoir. Donc, il faut améliorer, il faut qu'on reste fort pour améliorer ces deux aspects-là. Super.
En sensibilisant les gens avec les associations, comme aujourd'hui, c'est une très bonne initiative pour informer les habitants du quartier. Voilà.
Ok, bah, merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci.
Est-ce que tu veux te présenter ou nous dire pourquoi tu...
Bonjour, je m'appelle Nora, je suis une habitante de quartier Belle de Mai, je suis un membre de collectif aussi. Alors, ce que je voulais dire, franchement, on aimerait bien si on peut se lever l'ombre sur le quartier Belle de Mai. Et on voulait voir aussi, comme tous les quartiers de Marseille, un petit peu le soleil. On aimerait bien avoir un autre quartier qui s'améliore bien. Des arbres, des espaces verts, de propriétés, des appartements bien situés, bien clairs, bien propres, bien propres des insectes et tout. Et bien sûr, on aimerait bien qu'on serait en sécurité, comme elle a dit ma copine, en sécurité des gangs et des clans qui se construisent chaque fois dans les quartiers, plus ou moins comme les autres quartiers. Et du coup, c'est ça. Hein.
Ben, merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
À vous.
C'est vrai qu'on a pas, on avait évoqué dans la préparation de cette émission la question de la sécurité à la Belle de Mai, qui est en effet où il y a encore du trafic et des questions de sécurité qui nous questionnent tous, tous et toutes nous habitants de la Belle de Mai. Du coup, c'est quelque chose sur lequel en effet on a besoin de se mobiliser collectivement encore.
Tout à fait.
Il y a une autre personne qui nous a rejoint. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et tu voulais nous porter un témoignage ou...
Oui. Je suis pas habitant du quartier. Moi, je suis professionnel. Je travaille pour un centre social dans le 3e arrondissement, le centre social Saint-Mauran. Et je suis conseiller en insertion professionnelle. Donc, j'accompagne les habitants du 3e arrondissement dans toutes les démarches qui ont un rapport avec la formation, l'emploi, mais aussi plus largement l'accès aux droits. Mon petit témoignage, c'est d'insister sur le fait que dans le 3e arrondissement, il y a quand même beaucoup d'acteurs associatifs, beaucoup de dispositifs qui sont là pour accompagner les personnes. Et il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter, pas hésiter à nous appeler, à nous demander, à nous poser des questions. Parce que voilà, la plupart des services qu'on propose sont gratuits, ils sont sans condition d'accès. Et malheureusement, il peut y avoir des personnes sur le territoire qui vont profiter du manque d'informations de certaines pour leur facturer des services qui sont gratuits. Donc voilà, j'insiste bien sur ce message. N'hésitez pas à contacter les assos de quartier, les centres sociaux, toute personne de votre entourage pour leur demander des informations sur où est-ce que vous pouvez aller pour être accompagné gratuitement et sans condition.
Et bah, c'est vrai que c'est super de rappeler ça. On peut aussi continuer à faire de la publicité sur Radio Galère pour QX1. Qui a travaillé beaucoup avec le collectif d'accès aux droits et qui a fait un gros travail de mise en réseau, de traduction, parce que c'est un enjeu dans le quartier de la Belle de Mai aussi, pour que les assos de quartier, les collectifs soient aussi accessibles à tous et toutes et qu'on soit au courant, nous, habitants, habitantes, de tout ce qui est, tous les coups de main qu'on peut se donner dans le quartier. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole ? Rapproche-toi. Merci beaucoup. Alors, on a un petit changement avec des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà, des prises de parole.
Là.
Bonjour à toi.
Salut.
Rapproche-toi un petit peu du micro.
Oui, voilà. Hop là, je m'entends.
Super. Alors, est-ce que tu veux te présenter et nous raconter pourquoi
Je suis Gilbert. Je suis bénévole à la fraternité de la Belle de Mai et aussi au centre social, entre autres. Mais c'est pas pour ça que je voulais prendre la parole. Je suis aussi membre du administrateur du CIQ de la Belle de Mai, et de temps en temps, avec des membres du CIQ de la Belle de Mai, on est 3 ou 4, on fabrique, pour ceux qui savent ce que c'est, des bateaux. Les bateaux, ce sont des petites marches biseautées qui permettent aux fauteuils roulants de monter sur les trottoirs.
C'est donc vous, on se demandait la dernière fois qui était à l'œuvre.
C'est nous. On y va avec nos petites truelles, etc. Et même des fois, on pique des trucs sur les chantiers, puisqu'en ce moment, il y a beaucoup de chantiers. Alors, je ne sais même pas si on a le droit de le faire, mais comme la métropole ne le fait pas et que ça lui incombe, eh bien, on le fait tant bien que mal. Alors, de temps en temps, à force, ça se casse un peu parce qu'on n'est pas des pros. Mais je sais que depuis qu'on en fait quelques-uns sur les trottoirs de la Belle de Mai, eh bien, ça permet à certains fauteuils roulants de pouvoir accéder au trottoir et non pas de risquer leur vie sur la chaussée. Voilà.
Et en tant que jeune papa qui pousse des poussettes, je suis très reconnaissant pour ce travail.
Pareil pour les poussettes aussi, effectivement. Il y a pas de... Oui, bien sûr, exactement. Je voulais en profiter, puisque j'ai la parole, dire que le 16, là, mardi 16 après-midi, il va y avoir des journées portes ouvertes à la fraternité où les gens pourront voir tout ce qui s'y passe et s'inscrire. On a besoin de bénévoles partout actuellement. Je suis aussi administrateur de culture du cœur, qui n'est pas présent, mais qui a aussi besoin de bénévoles et qui œuvre énormément pour le quartier.
Eh ben, merci à toi pour ces petites infos et témoignages. On a une nouvelle personne qui s'est rapprochée du micro. Est-ce que tu veux te présenter ou nous dire pourquoi tu es là ou prendre la parole directement?
En fait, j'aimerais bien qu'on lave les routes et les trottoirs parce qu'il y a beaucoup de déchets dessus.
Ok, c'est vrai. Merci pour cette demande directe et très claire. Et je crois qu'on va se quitter là-dessus. Ou tu voulais rajouter quelque chose, toi? Et ben voilà, on va se quitter sur ce jeune témoignage plein de volonté. Et merci à tous et toutes, merci à la Place de Solidarité. Et on va rendre l'antenne à Radio Galère 88.4 FM. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez cette émission à la fin du mois sur le troisième lundi du mois à 20h sur le créneau de Alors la zone ça disquatte. Et à vous les studios.
خلصت الحلقة اللي ضيع هاد المون عند الله الملقى قاعد روح واحد ما يبقى في ظلام الليل نسير ما فيك زماني نصدم وندير نحقق الأماني الكوري ميل والقلب يقول واش الدليل مجاهد صغير
وما عاشوهاش جوز لا بار سي نوار دايم.
نصيرو ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لا بان سي نوار ما يتنساش صاحبي ومبلك فرحان الما ظاهر هادي خداعة ولا خلعوك الألوان لهوة وقعدة النسوان كي تفيق تتكسر لك الساعة الوقت صعيب صعيب والدنيا غدارة وسبح يحلين ولا طاح ديروا فيها سكارة معاك اليوم وغدوة يا رموك من الطيارة أما لازم روح بعيد وخليك من هالدارة ما شافوهاش هادي ما شافوهاش دي فارس عيد وإحنا صيروا ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لابان سينوار ما يتنساش ما شافوهاش ما شافوهاش دي فارس عيد واحنا صيروا ما عندناش ما عاشوهاش هادو ما عاشوهاش جوز لا فارس نوار ما يتنساش.
Et on est de retour pour une dernière intervention. Personne qui a fait la porte-heureuse de parole pour le syndicat du logement et qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé.
Alors bonjour tout le monde. Donc on a fait un petit porteur de parole. On s'est baladé sur la place Cadenas pour interroger quelques personnes avec la question agence immobilière, galère ou bonheur ? Et alors, devinez quoi ? Eh ben, il n'y avait pas trop de bonheur. Et quelqu'un m'a même dit, si le bonheur, c'est le paradis, la porte m'est fermée. En tant qu'habitante, j'ai pas assez de revenus, je vis seule. Toutes les entrées sont fermées. Et en plus, je ne suis pas propriétaire pour les logements sociaux. Donc, tout le monde, en fait, n'a pas partagé que des galères avec les agences immobilières. En gros, j'ai répertorié trois thématiques. La première, c'est que, les agences immobilières, quand on a des galères, elles répondent pas, ou elles répondent vraiment très tard. Quelqu'un m'a dit, par exemple, mon agence immobilière, elle est absente, elle ne m'écrit que si j'ai un jour de retard pour les loyers. Pour les réparations, c'est beaucoup plus galère. Globalement, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que leur agence ne leur répondait pas ou répondait très tard. Quand il y avait besoin de faire des réparations. Alors après, quand il y a des réparations, elles sont parfois, en tout cas pour les témoignages que j'ai eus, pas faites ou mal faites. Là se pose alors la question, deuxième thématique après les réponses, c'est celle du type de réparation et de la relation au syndic. À savoir qu'il y a des agences immobilières qui sont aussi des syndics. Mais en tout cas, par exemple, quelqu'un a témoigné sur le fait qu'elle habite un appartement où la toiture en fait, de l'immeuble est infiltrée par les eaux. Il n'y a pas d'étanchéité. Ils ont contacté donc, l'agence immobilière, puis évidemment, c'est la copropriété qui est responsable. Et en fait, le syndic a payé quelqu'un au black qui est venu à 6 heures du matin pour faire des tests d'étanchéité. Et en fait, il a quasiment rien fait. Et donc, son voisin, là, n'a plus d'électricité dans sa cuisine. Il y a de l'eau qui continue de s'infiltrer par la toiture. Ça, c'est la relation au syndic. Il y a les questions de discrimination qui sont remontées plusieurs fois. Quelqu'un disait, par exemple, moi, j'ai un pote, dès qu'il appelle les agences, avec son accent, il se fait refouler de partout. Et moi, je peux donner un exemple très concret que j'ai vécu. Puisque j'ai cherché un appartement à un moment donné. Et en fait, il y avait un appartement qui était libre. Et j'ai laissé un message sans dire mon nom sur la boîte vocale de l'agence en disant que l'appartement m'intéressait. Et l'agence m'a rappelé en me disant « Vous nous avez appelé pour l'agence, appelez-nous à tel numéro, pour le logement, pardon, rappelez-nous à tel numéro. » J'ai rappelé à tel numéro en disant « Voilà, je m'appelle madame et j'ai donné mon nom, qui est donc un nom d'origine maghrébine. » Et là, la personne m'a dit « Ah ben non, désolé, en fait, le logement, ça y est, il a été loué. » Je lui ai dit « Ah bon, c'est étonnant. En une demi-heure, le logement a été déjà loué. Oui, ça a été vite, etc. » On avait un très bon dossier. Et juste après, j'ai demandé à une amie avec un nom très français d'appeler. Et là, il lui a dit donc il y a rendez-vous tel jour, à telle heure, etc. Et donc là, en fait, je lui ai dit, vous savez, en fait, il y a un truc qui s'appelle le défenseur des droits et je vais vous dénoncer et je vais dire vos pratiques, etc. Et donc là, il était vraiment mal. Donc il ne faut pas hésiter à dire aussi qu'en fait, il y a des droits. La discrimination, c'est un délit. Et de les menacer aussi d'avoir recours aux défenseurs des droits. Voilà. Et en fait, il y a aussi autre chose qu'on a discuté aussi de la place des assurances. Parce qu'en fait, ce qu'on relève pas suffisamment, c'est que de plus en plus d'agences en fait sont liées à des assurances, et en fait ce sont les assurances aussi qui disent, en fait ils ont des critères et en fait il faut avoir des critères plus pour pouvoir avoir accès à tel ou tel logement. Et j'ai aussi l'exemple d'une propriétaire qui un jour nous a loué un appartement et nous a dit en fait j'ai dû rompre mon contrat avec mon assurance loyer impayé pour pouvoir vous louer votre logement. Donc en fait il y a tout c'est un sort de microsystème dans lequel en fait on parle des agences. Ce sont alors les agences avec vraiment beaucoup de galères, les agences sont parfois des syndics, donc il y a les agences, les syndics, et il ne faut pas oublier aussi le rôle des assurances logement loyer impayé qui bloquent aussi souvent l'accès au logement. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Donc, agence immobilière, c'est la galère.
Et merci beaucoup pour les témoignages. Et ça vient faire écho à tout ce qu'on s'est dit ce matin sur les différents moments du plateau, que ce soit dans la nécessité d'aller vers et de faire parler les gens aussi pour se retrouver sur les mêmes problématiques et se rendre compte que ce qui se passe, c'est pas anecdotique, c'est structurel. Et du coup, réfléchir et pouvoir se battre ensemble là-dessus. Et on va s'arrêter là parce qu'on est la fin du direct. Pour une première fois, on est dans les temps, en fait. C'est incroyable sur Radio Galère. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris la parole. Et on est encore là, encore un petit peu le temps de ranger si vous avez envie de venir nous raconter deux ou trois trucs. Et d'ici là, l'émission elle sera retrouvable sur Radio Galère. Le troisième lundi du mois, c'est le 20 octobre. Vous pourrez la réécouter à 20h. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne musique.
Ciel, ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te faire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert.